Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Juste après la guerre, les tribunaux de la région sont encombrés, à la fois par des anciens miliciens, mais aussi par des anciens résistants. Fini l'époque où les miliciens étaient fusillés par paquets. Nous sommes désormais en 1957 et Michel Duc, 33 ans, comparaît devant le tribunal militaire à Paris. Né dans une honorable famille d'industriels et de commerçants de Nancy, il est poursuivi pour intelligence avec l'ennemi. Pendant l'occupation, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, il a travaillé comme agent de renseignement, à la fois pour le compte du SD allemand, la police de sécurité, et pour le service du commissaire Evrard, spécialisé dans la traque des opposants au régime de Vichy et en premier lieu des maquisards. Mais comment Duc en est-il arrivé là? Lycéen à Nancy, anticommuniste très tôt, il adhère aux jeunes du maréchal. Puis il entre dans la milice, dont il devient à 20 ans un des inspecteurs nationaux. Parlant couramment l'allemand, il est appelé à effectuer des enquêtes pour la police française et à en rendre compte à l'occupant. L'acte d'accusation retient sa participation à un certain nombre d'opérations de répression contre des réseaux et des maquis. Il aurait ainsi été à l'origine de la dénonciation d'un groupe d'étudiants à Nancy en 1943, dont quelques-uns furent envoyés dans des camps. Puis, on note la présence de Duc lors des attaques de 1944 contre les maquis de Bouc et de Tronde dans le Toulois, de Ciré-sur-Vezouze dans le Lunévillois et de la Piquante-Pierre à la Bresse dans les Vosges. En tout, plusieurs dizaines de maquisards sont arrêtés et fusillés sur place, plusieurs centaines de personnes déportées. Mais quel était le rôle de Michel Duc? Des témoins sont formels, non seulement il était présent, mais il aurait aussi participé à des arrestations, ce que l'accusé nie farouchement à l'audience. En revanche, personne n'affirme qu'il aurait tué lui-même. Après les Vosges, Duc s'enfuit en Allemagne, où il tente de se faire oublier pendant plusieurs mois. Il réapparaît en France, et en 1954, alors qu'il se sait toujours sous le coup d'une condamnation par contumace, il décide de prendre contact avec la justice. Entre-temps, quel service a-t-il rendu à la nouvelle police française ? Comme l'affirmera son avocat, maître Jean-Louis Tixier-Vignancourt, est-il vraiment un agent des renseignements ayant œuvré en terre étrangère pour le service de la France ? L'audience ne permet pas de répondre à ces questions. En tout cas, de ce que l'on sait, car le huis clos est décrété dès lors que le secret défense est invoqué. Le commandant Lombard, qui assure les fonctions de commissaire du gouvernement, réclame les travaux forcés à perpétuité contre Duc, tenant compte du jeune âge de l'accusé au moment des faits, mais relevant l'extrême gravité des accusations. Duc non seulement échappe à la peine de mort, mais il n'est condamné qu'à 10 ans de travaux forcés. Un mandat de dépôt est immédiatement décerné contre lui. Mais il n'y a pas que des miliciens qui sont jugés. Un ancien résistant se trouve également dans le box des accusés. L'affaire qu'examine le tribunal de Metz ce 25 mai 1954 revêt un aspect bien particulier, tant par la personnalité des accusés que par les faits eux-mêmes, liés à la résistance puis à la libération. Nous sommes en 1954, mais les plaies de ce qu'on a appelé l'épuration sauvage ne sont pas encore complètement refermées. Le personnage central de cette affaire s'appelle Louis Jouet, surnommé Judex dans la résistance. Ses états de service sont irréprochables. Arrêté, torturé, son épouse déportée, il exerce en 1945 les fonctions d'intendant de police à Limoges avec le grade de commandant. Muté à Metz pendant l'été, il va être chargé du criblage des personnes revenant en France, d'un côté les prisonniers et déportés, et de l'autre les collabos et les travailleurs volontaires qui feront l'objet de procédures d'internement administrative ou d'enquêtes judiciaires avec condamnation à la clé devant une cour de justice ou une chambre civique. Pour s'acquitter de cette tâche, Jouet est flanqué de l'adjudant Victor Cousin, alias Le Vautour, et du sergent Jean Vergniaud. Mais Jouet ne se contente pas de cribler les suspects. Il profite de sa situation pour régler directement ses comptes. François Christiani, un ancien officier d'active lorrain qui fut l'interprète des Allemands à Périgueux, est interpellé en Moselle et conduit dans les bureaux de Jouet, rue de Verdun à Metz. Catalogué comme collabo, Christiani est conduit dans la forêt, près de Châtel-Saint-Germain, abattu et son corps est jeté dans une fosse. Jouet revendra sa voiture et gardera l'argent. En août, cette même justice expéditive est appliquée à un jeune milicien de retour d'Allemagne, abattu par Vergniaud dans la forêt. Puis ce sera au tour de Binet, pourtant authentique résistant officier FTP parisien, mais qui avait été un temps en rivalité avec Jouet alors que ce dernier était dans le Limousin. Dans la fosse de Châtel-Saint-Germain, on a aussi retrouvé la dépouille d'un jeune soldat de la 1ère armée française, sacrifié on ne sait pourquoi par Jouet et sa bande. Le 6 septembre enfin, le groupe Jouet s'emparait d'un géorgien, un formateur occasionnel de la Gestapo à Nancy. Il fut également exécuté près de Roppwiller dans les mêmes conditions que les quatre précédents. Jouet va lui voler en plus sa voiture, ses bijoux, ainsi qu'une collection de timbres et même un accordéon. Sa mission en Lorraine achevée, Jouet était retourné dans son Puy-de-Dôme natal et rentré dans l'enseignement professionnel. Mêlé à une affaire très embrouillée de trafic de véhicules, il est dénoncé par une lettre anonyme qui va permettre de remonter petit à petit jusqu'au mystérieux mort de Moselle. Lors de l'audience devant le tribunal militaire, Jouet ne reconnaît qu'un seul meurtre, celui du Géorgien. Pour les autres, il dégage sa responsabilité et traite aussi les victimes de salopards. Le président lui réplique « À Metz, votre tâche était le dépistage et le criblage des suspects, mais vous ne pouviez en aucune manière vous substituer à la police, à la justice et encore moins au bourreau. » Jouet écope de 15 ans de travaux forcés. Ses deux complices jugés en même temps ne connaissent pas le même sort. L'un s'en tire avec 5 ans de prison, l'autre est acquitté. Sanction supplémentaire pour Jouet, il est également dégradé. C'était les grands crimes de l'Est avec deux affaires, celle du milicien Duc et de l'ancien résistant Jouet, deux histoires écrites par François Moulin. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre affaire. D'ici là, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires, des étoiles sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. À dans 15 jours.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.